Ces dernières décennies, on a réduit le christianisme à du développement personnel. Faire du yoga ou de la méditation chrétienne, c'est très bien, c'est dans l'air du temps. Mais le christianisme est avant tout porté par une exigence de justice, en affirmant qu'il ne peut pas y avoir de paix sans justice. Une parole que j'apprécie dans les psaumes dit, deux points, « Amour et vérité se rencontrent, justice et paix s'embrassent ». Notre invité est ce soir le père Philippe de Mestre, et comme chaque soir, nous commençons en musique et ce sera les Pink Floyd. Qu'avez-vous reçu de vos parents ?
Tout ce qui m'était nécessaire. Donc, lorsque j'ai vraiment quitté la maison, oui, pour partir en coopération en Algérie, coopération militaire donc, mais c'était en 70, c'est après l'indépendance de l'Algérie, c'était clair dans ma conscience que même en n'ayant pas un centime en poche, etc., j'avais reçu tout ce qui me suffisait pour être dans la vie, toujours quelqu'un qui était en possession de tout ce qui était nécessaire, voilà.
Qu'est-ce qui est nécessaire, Philippe de Mestre ?
D'avoir foi en la vie, voilà. Et puis d'avoir été aimé, ça suffit. Bon, voilà, et puis de rencontrer sans cesse des confirmations de cette capacité, de cette force qui est, bon, celle de l'amitié, de l'amour, de la bonté, etc. C'est le premier, premier couteau suisse pour faire tout avec rien. Bon.
Mais c'est un don que d'avoir cette capacité de vivre et cet émerveillement de vivre.
C'est peut-être un don, c'est celui de la gratitude. J'ai souvent été étonné, oui, pour des personnes avec qui j'ai vécu. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a du soleil déjà. Bon, ça peut sembler banal. Il y a de quoi rendre grâce. Il pleut. Bon, même si pour moi ça ne me satisfait pas, mais il y a peut-être des paysans pour qui c'est un pur bonheur ce jour-là, qu'il y ait de la pluie, etc. Bon, voilà. Tout est savoir regarder et dépasser les mouvements d'humeur. Bon. Premier mouvement de mécontentement, etc., pour dire que c'est cadeau, tout est cadeau.
Votre enfance et votre adolescence se sont déroulées dans une ville frontalière. Est-ce que cela a été important pour le devenir de votre existence, Philippe de Mestère ?
À l'époque, pas du tout, sinon que nous allions, là, mon frère, ma sœur et moi-même, régulièrement faire les courses de l'autre côté. Il fallait ouvrir notre sac, et puis s'il y avait quelque chose qui ne passait pas, on passait par une rue voisine. Donc c'était assez simple. Bon. Mais rien de plus à l'époque. C'était quelque chose qui se passait, oui, sans que ça ait de signification.
Bon. Avez-vous reçu une éducation religieuse ?
C'était un bain naturel, oui, dans l'enseignement privé, et puis voilà, de famille chrétienne. Bon, voilà, mais où il y avait quelque chose qui n'était pas de surface. Il y avait bien une foi profonde qui s'exprimait pas beaucoup, qui était discrète, pudique, mais qui était bien présente.
Vous vouliez faire quoi de votre vie quand vous étiez petit ?
Comme tous les petits, on a différentes aspirations suivant les âges. Mais je me suis vu un moment moine, parce que j'étais allé visiter un monastère où nous avions été accueillis en Belgique par un moine qui fumait un gros cigare. Et donc, voilà.
Et puis, qui buvait du whisky.
Tout était nickel, voilà. Et puis, alors, donc, je me disais que, oui, c'est une belle vie, équilibrée. Et puis, j'aimais beaucoup lire. Très tôt, j'ai toujours lu. Et alors, donc, ça m'apparaissait vraiment une vie, bon, sans histoire. Mais alors, on ne parlait pas encore de fin de l'histoire à l'époque. Mais vraiment, l'histoire faisait pas vraiment sens à l'époque pour moi, peut-être. Et donc, je me voyais bien dans un monastère.
Mais à ne lire que les Écritures saintes ou tout lire?
Ah non, la philosophie, etc. Tout ce qui touche à l'essentiel. Bon, la littérature aussi parle de l'essentiel sur un autre registre. Bon, ben voilà, donc la religion, ça représentait pour moi l'essentiel. Bon, qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans la vie ? Alors très tôt, voilà, et aujourd'hui, j'ai l'impression de toujours poursuivre ce qui m'apparaît être au centre, voilà, de ce qui gouverne tout le reste. Alors bon, l'exemple que j'ai, il suffit qu'il y ait un centimètre carré de roche, là, au fond des fosses des Philippines, là, les plus profondes, hein, sous la mer, sous l'océan, qui bouge, pour que ça déclenche vraiment un, voilà, en surface, quelque chose, un tsunami énorme. Bon, voilà, je me dis, être dans cette mouvance-là, qu'est-ce qui, aujourd'hui, peut transformer notre société, même si c'est infime. Voilà, être sur ce lieu de l'infime, mais qui déclenche ensuite, qui accompagne un mouvement sur lequel on ne peut pas revenir. L'événement Jésus de Nazareth, c'est quelque chose d'infime. Hein. En même temps, ça fait encore aujourd'hui bouger des choses. Il y a des répliques, on pourrait dire.
Que veut dire croire en 2021, fin 2021 ?
C'est certainement pas une foi intellectuelle, cérébrale, etc. C'est croire en la vie, croire au vivant. Je parle plutôt du vivant que de Dieu, parce que Dieu, c'est tout de suite un mot où, si on parle de Jésus de Nazareth, bon, tout de suite, ça implique des allégeances à l'Église, etc. Voilà. Le vivant, je pense que chacun, à un moment ou à un autre, en a fait l'expérience. C'est-à-dire d'être touché par quelque chose qui déborde la conscience qu'il a de lui-même, et puis qui, en même temps, l'habite, une présence. Voilà. Alors ça, je crois à ça. Bon, c'est... Et alors, comment garder une oreille pour entendre cette orientation du vivant, pour le servir, être en phase avec l'actualité qui est la sienne, qui n'a rien à voir avec les idées que je peux avoir, moi, d'une réussite. Bon, c'est important. D'où l'importance du silence.
On va aménager une pause de silence, mais je vais quand même vous demander, quand êtes-vous entré dans les ordres ?
J'avais 23 ans, donc c'est au retour de la coopération en Algérie.
Donc il a fallu le voyage en Algérie, le déplacement dans tous les sens du terme, qui vous a tellement ébranlé qu'au retour, votre décision était prise. Un vœu d'enfant s'est concrétisé au début de l'âge adulte.
Il y a eu beaucoup de choses entre-temps. L'Algérie m'a permis de me réconcilier avec la vie. Sinon, étant tellement cérébral, je veux dire, tout ce que j'avais pu lire, c'était l'ère du soupçon quand même, voilà, les maîtres du soupçon, etc. Ça m'a fait perdre le fil de la vie.
Et l'Algérie vous a apporté quoi alors?
L'Algérie, je veux dire, renouer avec l'instinct, voilà, avec la vie. Bon, pour parler de Noces de Camus, là, par exemple, c'est vraiment un pays qui entre dans la peau, puis de très belles relations.
Pourquoi avez-vous quitté l'Algérie? Vous auriez pu vous y installer?
Alors, expérience que je mentionne de temps en temps, bon, j'ai eu une hépatite, il fallait passer par l'hôpital d'Alger pour un contrôle, et arrivant largement à l'avance, il y avait déjà une énorme file. Et à peine arrivé, on m'a fait passer devant tout le monde. Ça a été une profonde humiliation.
Parce que vous étiez blanc.
Parce que, voilà, c'est ça, etc. Et je me suis dit, tant que je resterai dans un pays, comme l'Algérie, ou etc., ma couleur blanche, mon passeport français, etc., etc. feront toujours de moi un privilégié. Donc j'ai choisi de travailler dans des milieux défavorisés plutôt en France. Quand j'étais dans des asiles de clochards, j'étais un clochard parmi d'autres.
Comment avez-vous... pratiquez votre foi dès le début. Et quelle congrégation avez-vous choisi, Philippe de Mestère?
Donc, je suis dans la Compagnie de Jésus. Donc, c'est à la suite d'une lecture que j'avais faite quand j'étais en Algérie. Oui, je pensais normalement partir en kibboutz après cet épisode-là en Algérie. Et puis, j'ai lu des choses qui m'ont intéressé, notamment dans l'histoire de la Compagnie de Jésus. Il y a l'épisode qu'on appelle celui des réductions du Paraguay, où, dans la foulée de la colonisation de l'Amérique latine, des gros propriétaires, déjà, etc., réduisaient en esclavage les indigènes, etc. Et puis, à l'époque, la Compagnie de Jésus s'était fait accorder par le pape des enclaves, où elle pouvait protéger ses indigènes, organiser des villages, etc. Ça a duré quand même plus d'un siècle. Et pour moi, c'est quelque chose qui ressortait de la même symbolique que celle des kibboutz. C'est-à-dire qu'effectivement, pour des personnes qui ne trouvent nulle part où habiter, où demeurer en paix, c'était important de dégager des enclaves, des lieux, d'inventer des lieux où vivre, où demeurer et où être humain, sans être asservi, sans être aliéné à des puissances étrangères, etc. C'est ce qui me motive encore aujourd'hui avec tous ceux qui sont à Calais, qui sont dehors. Bon.
Alors, nous avons connu et reconnu, grâce à cette triste actualité de Calais, il y a quelques semaines, quand vous avez incarné la résistance à l'insensibilité et que vous avez décidé d'entrer dans une grève de la faim pour soutenir justement la situation insoutenable des migrants. Votre position, déjà, quand vous étiez un jeune homme à l'aube de votre 22e année, c'était d'être un autre comme les autres, mais un autre aussi pauvre que les plus pauvres d'entre nous. Pourquoi ?
Parce qu'il y a cette force active, là, tout à l'heure je disais, alors c'est un grand mot, l'amour, etc., mais cet invisible qui fait que, quand bien même on n'a que ses mains sur un bout de trottoir ou autre chose, si on est à deux, à l'époque, quand j'ai commencé à aller là dans la rue, il n'y avait pas de RMI, donc chacun vivait de la manche, ou de petits boulots, de charger un camion à gauche ou à droite, ou de faire de l'intérim en demi-journée ou en journée, avec peu de choses, dès qu'on est semé à plusieurs, on peut entreprendre, et on peut se dégager des lieux de bonheur, de plaisir, etc. Bon, voilà, que personne ne peut nous voler.
Vous dites « nous », parce que vous avez adopté, dès le début de votre entrée dans cette congrégation, l'attitude d'être comme l'autre, et pas d'être un aumônier qui apporte la bonne parole. Qu'est-ce que cette expérience vous a apporté de plus? Vivre comme eux. pour pouvoir devenir l'un d'eux.
Ou avec eux, je veux dire, c'est ou à côté d'eux, parce qu'avec, je veux dire, c'est très difficile de prétendre qu'on est avec, donc à proximité ou aux alentours d'eux, mais pour vivre des histoires singulières. Je veux dire, dans des histoires partagées avec des sans-abri, il y a beaucoup de choses qu'on aurait pu instituer. Hein, Brigitte Doyon et moi-même, qui avons travaillé pendant 35 ans ensemble, on a fait le premier journal de rue à l'époque, je veux dire, on a dû faire une dizaine de journaux, ça s'appelait Son de cloche. Le jour où ma machine à écrire traditionnelle a été volée, nous avons arrêté. Mais voilà, mais ce sont des histoires qui n'ont appartenu qu'à ceux qui les ont vécues. Ça m'apparaît important.
Et elles sont transmissibles, ces histoires de solidarité, quelquefois de rupture de solidarité?
Il y a beaucoup de relations qui parfois ont été longues et donc à propos desquelles j'ai pu me questionner sur comment dire sur leur fécondité. En même temps, je me situe dans l'éternité. Donc ça veut dire.
C'est-à-dire.
Ça donne une très grande liberté. Donc c'est-à-dire ça me permet
vous
de.
Vous n'êtes pas dans notre temps.
Si, pleinement, mais je veux dire, je suis libre par rapport à des figures de succès et par rapport à des attentes trop immédiates vis-à-vis d'autres. Donc, c'est-à-dire, il y a des choses qui peuvent se bouger au plus intime de la personne avec qui j'ai vécu 30 ans. Il peut me sembler, moi, que ça n'a rien à bouger. En même temps, je me dis, engagé comme on est dans l'éternité, il peut y avoir aussi ce genre de point infime. Là, j'évoquais la fosse des Philippines qui a bougé et qui fait que, bon, voilà, c'est en route et que la personne est sur le chemin de son accomplissement, et voilà, ce n'est plus mon problème.
Pendant pas mal d'années, Philippe de Mestre, vous avez ouvert des lieux d'accueil et vous étiez comme l'un de vos hôtes et vous viviez la même vie que les personnes qui pouvaient trouver refuge à l'intérieur de cet endroit que vous aviez aménagé. Quelle force en avez-vous tiré et quelles leçons et quel enseignement philosophique?
Quelque chose qui m'apparaît évident, alors après on peut l'habiller par des discours différents, c'est qu'on est toujours davantage appelé à vivre une humanité commune. Alors ce caractère commun, je veux dire, c'était le sens un peu de la grève de la faim, c'est-à-dire qu'il y a un moment, il y a des choses qui se passent dont on peut se dire que ça touche en nous vraiment ce qui est vital et qu'on peut pas laisser faire ça parce qu'effectivement il y a, alors on peut dire cette humanité commune, le fait qu'on habite un corps, bon voilà, qu'on participe de la même chair, ça c'est important et qu'il s'agit de travailler à donner consistance à ce commun. Bon, c'est une notion quand même qui revient à la surface aujourd'hui dans les débats, le commun, les biens communs, l'air, l'eau, etc. Et puis aussi à propos de ce qu'étaient les communs avant en Angleterre, tous ces lieux qui n'étaient pas privés. Hein, bon, voilà. Aujourd'hui, comment dans les relations, dans nos façons d'être ensemble, on peut refaire droit à cette expérience-là, d'une communauté.
Je vous propose d'écouter la voix de Emmanuel Lévinas qui va s'exprimer sur l'éthique et la relation à l'autre. C'est une archive INA du 20 septembre 1980 et c'était au micro de Jacques Chancel.
Moi, l'éthique me semble très important comme ce qui est l'ultime fondement de la spiritualité. Je sais que l'éthique, tous les philosophes ont eu leur éthique, n'est-ce pas? Mais l'éthique était toujours considérée comme une couche qui recouvrait certaines formes de l'être. La relation à l'autre est pour moi une structure fondamentale sur laquelle se greffe l'être et la connaissance et le savoir.
Mais est-ce une faute ou est-ce une erreur de s'occuper trop de soi-même?
C'est déjà une erreur, n'est-ce pas?
C'est
déjà une erreur. Enfin, si on peut distinguer faute et erreur, n'est-ce pas? Mais enfin, quand vous me posez une question d'éthique, n'est-ce pas? Alors, chez moi, l'éthique est considérée comme une catégorie non ontologique, n'est-ce pas, mais qui supporte l'ontologie, n'est-ce pas? Par conséquent, comme quelque chose, je veux dire, comment dire, quelle que soit la conduite des hommes, si la conduite des hommes n'est pas du tout conforme à ce que je décris dans la relation à l'autre, dans cette priorité de l'autre. Mais ce que je prétends, c'est que la base, n'est-ce pas, de tout comportement, qu'il soit conforme à cela ou non, n'est-ce pas, est signifiant par cette relation à l'autre, par la socialité, qui n'est pas du tout une expérience, qui est une relation tout à fait différente, n'est-ce pas ? L'essentiel dans la relation à l'autre, c'est pas du tout que je le connais, n'est-ce pas ? C'est le fait que, enfin, les théologiens diraient que je dois l'aimer.
Nous venons d'entendre la voix d'Emmanuel Lévinas sur la relation à l'autre. Mmh. Ne vit-on pas, Philippe de Mestre, une période en ce moment qui est vraiment l'indifférence à l'autre, le repli sur soi-même, l'ère de l'individualisme ?
C'est comme si la relation à l'autre représentait toujours une menace pour sa propre indépendance, pour son propre développement. J'ai l'impression qu'on sort d'une époque où, voilà, où massivement on s'est détaché de toutes les obédiences auxquelles on était soumis, que ce soit l'Église en premier, le pouvoir politique, etc. Et c'est difficile, je trouve, pour la génération présente, de retrouver une relation où on demeure libre. Pour ma part, j'ai fait vœu d'obéissance. Voilà.
Et à votre temps, ordre.
Oui, à mes supérieurs. Et puis, dans la Compagnie de Jésus, il y a un vœu spécial au pape. Et alors, en même temps, je veux dire, ce n'est pas du tout incompatible, je veux dire. C'est-à-dire qu'effectivement, il y a bien dans cette relation à l'autre quelque chose qui n'est pas de l'ordre d'un abandon de sa liberté, mais qui est une capacité à rentrer. Je prends cette image-là au bois, dans le fil de l'autre. Donc, c'est-à-dire qu'effectivement, s'il s'agit de rentrer en relation, il s'agit de composer avec l'autre. Mais c'est vrai pour un musicien, je veux dire, etc. J'ai l'impression que tous ces apprentissages-là, qui vont de soi pour quelqu'un qui est manuel, quelqu'un qui est affronté à quelque chose qui résiste, comme aussi une partition de musique, etc., c'est devenu opaque et ça ne sert pas aujourd'hui de guide pour se dire qu'il n'y a pas de relation qui ne passe pas par cette capacité à se laisser modifier par l'autre, dans la religion chrétienne, on mange l'autre, je veux dire, sous mode de l'Eucharistie. Dans la publicité, on va dire, vous devenez ce que vous mangez, et il y a une belle pin-up avec un yaourt, etc., extraordinaire, voilà, ce qu'elle mange, la transforme. Mais en même temps, ça fait pas sens pour d'autres relations. Alors, l'ennemi, normalement, comme tout le monde, c'est un commandement, c'est bien un impératif, c'est-à-dire, c'est la vie qui me fait entendre, c'est pas moi qui ai envie d'aimer mon ennemi. Mais j'entends bien que si je veux devenir moi-même, il faut bien que je traverse tout ce qui m'apparaît ennemi chez l'autre, que je rentre dans un long chemin qui est d'abord éventuellement celui de pas en rajouter dans la distance avec lui, de le respecter et de ne pas fermer un chemin de réconciliation. De commencer par ça, c'est modeste, mais...
Mais qui est l'autre ?
Qui est l'autre, c'est vous.
Oui, mais il y a des autres qui apparaissent comme des figures d'étrangers, de menaces, d'envahissements. Vous n'avez pas l'impression, Philippe de Mestre, que cette notion de l'autre, avec un grand A, a profondément évolué durant ces 10 dernières années ?
Pour avoir vécu donc pendant des dizaines d'années avec des sans-abri, hébergeant maintenant des personnes exilées chez moi, je découvre.
Vous dites pas migrants, vous dites exilés.
Des personnes, et je dis des personnes.
Des personnes, très important de nommer le nom de personnes.
Donc des personnes exilées, ça m'atteint déjà sur ma façon de faire table. Donc je m'aperçois que j'appartiens à une culture, en flamande surtout, par exemple, où la table c'est important, on peut rester tout l'après-midi midi à table, se relever pour faire la vaisselle et recommencer à manger ensuite. Or, bon, je veux dire, la pratique de la table chez des Soudanais, des Érythréens, chez des Afghans, etc., n'est pas du tout la même. Bon, voilà, à la limite, il n'y a qu'un seul plat, et puis à peine fini, on s'en va. Donc, c'est pas le lieu de la conversation, c'est pas un lieu où on demeure. Bon, voilà, ça, c'est un lieu à apprivoiser. Bon, ça s'est fait un peu à la fois. Bon, c'est bien. Bon, et puis aussi, oui, je vois que je fais toujours des progrès là-bas. C'est la première fois de ma vie. Alors si, même si j'ai dormi dans des dortoirs, c'était à Paris où on était plus de 200 dans un dortoir. C'était vraiment des choses héritées encore du 19e siècle. Dans ma chambre, on est trois. Bon, voilà, j'accepte aussi de plus en plus de ne plus m'attacher à tout ce qui pourrait sembler des fondamentaux. Bon, voilà.
Plus d'espace intime.
Je m'applique à le trouver ailleurs, ce temps de silence et d'intimité, et puis je m'aperçois que oui, je me sens pas dépossédé. Alors, sauf pour la lecture. Mais heureusement, aujourd'hui, j'ai pris le train, ça m'a permis de lire un peu.
Je vous propose d'écouter la voix de Jacques Derrida, autre philosophe, à l'occasion de son livre qui s'intitulait « De l'hospitalité ». C'est une archivina du 29 décembre 1997 et c'était au micro d'Alain Weinstein.
Il y a toujours entre l'hospitalité et l'improvisation, qui est notre situation à l'instant, une affinité essentielle. L'acte d'hospitalité doit comporter une part d'imprévisibilité, l'autre arrive. Évidemment, il y a des rites, il y a des conventions, mais le moment d'hospitalité est celui de la surprise, où on ne demande rien, on ouvre la porte. Mais cette hospitalité absolue, s'il y en a, est toujours, justement, impossible. J'entends par là, non pas nécessairement quelque chose de négatif. C'est ce qu'il faut faire, il faut faire l'impossible. Et dans tous les textes auxquels vous faites allusion, il y a ce souci à la fois de penser ou d'endurer une limite, par exemple celle de l'hospitalité, et de penser un impossible qui est néanmoins désiré comme tel et qui n'est pas nécessairement négatif. Au fond, il s'agit de savoir si l'appel de l'impossible, par exemple, accueillir l'autre sans poser aucune condition, sans même lui demander son nom, à la limite, sans parler de son passeport et de ses papiers, le laisser non seulement entrer, mais éventuellement bouleverser les conditions du chez-soi dans lequel on l'accueille, ça c'est vraiment quelque chose d'impossible, que nous jugerons impossible à différents lieux de l'impossible, mais en tout cas, cette hospitalité pure, inconditionnelle, est impossible.
Nous venons d'entendre Jacques Derrida, c'était au moment de la publication de son livre sur l'hospitalité. Hospitalité inconditionnelle, Père Philippe de Mester. Hospitalité, c'est le principe élémentaire de l'accueil à l'autre, pour vous?
Ma pratique, c'est de... Et alors peut-être que je ne la choisis pas, je suis comme ça. Donc voilà, si quelqu'un arrive trop tard ou autre chose à mon idée, bon par exemple, il y a un savoir-faire par exemple chez les sans-abri, c'est d'arriver et sonner à la porte un vendredi soir, de préférence quand tous les services sociaux sont fermés et que vient, voilà, on se remet à l'autre en disant grosso modo comme un nourrisson, ma vie dépend de toi, voilà, etc. Donc c'est une violence, voilà. Donc je fais état de cette violence et puis après je passe dessus, mais c'est une façon de marquer que j'existe et je tiens à le marquer en même temps que je donne à l'autre le droit d'exister.
C'est-à-dire que vous lui dites d'abord je t'accueille, mais je sais bien que tu es venu en dernier recours.
Je suis carré, voilà, donc c'est ça, voilà. Et donc si j'ai un mouvement d'impatience ou un mouvement d'intolérance, etc., je les exprime, mais en donnant à l'autre le droit aussi d'exprimer ses surprises, ses intolérances et ses demandes propres, voilà. Mais ça m'apparaît important parce que c'est ça qui permet de cheminer ensemble.
Donc c'est pas l'hospitalité inconditionnelle. Vous posez vos limites et vos principes avant d'accueillir l'autre.
L'inconditionnel. Alors donc c'est là où je pense que j'ai lu beaucoup de choses sur l'hospitalité, etc. Mais je me demande dans quelle mesure ceux qui parlent ou écrivent à propos de l'hospitalité ont vraiment accueilli chez eux. Parce que pour vivre une hospitalité et traverser l'impossible, il faut que chacun puisse faire état de ses limites. Et alors, pour moi, il y a quelque chose qui est fondamental. Je suis amené de temps en temps, enfin, c'est pas un refrain, mais au moins une fois tous les 6 mois, sinon tous les ans, je veux dire à chez moi, de dire, on a besoin de la miséricorde. C'est ça qui permet d'être libre. Si chacun est obligé de se faire...
Qu'entendez-vous par miséricorde?
De la capacité qu'ont les autres à développer à notre égard de la patience, de l'humour aussi, une capacité aussi à nous reprendre, ce qu'on peut appeler la correction fraternelle, pour que chacun ne se laisse pas enfermer dans un personnage et puisse être voilà dans sa nudité propre, ce qui permet de rester léger, ce qui permet de durer dans le temps. Si vous êtes pris par des réquisitions, par des requis plutôt, bon voilà, à son moment-là, il y a quelque chose où à un moment, vous êtes obligé de jeter l'éponge parce que ça devient impossible. Voilà, moi je suis comme je suis et j'essaie de donner à ceux qui sont sous mon toit, cet hiver on était 17, la possibilité d'être comme ils sont.
Et comme vous êtes aussi.
Oui, oui, tout à fait. Bon, voilà. Alors, la miséricorde, c'est ce qui enveloppe, c'est ce qui permet de se supporter les uns les autres. Mais mieux que ça, voilà, de vivre paisiblement et d'introduire de la légèreté dans ce qui pourrait être lourd.
Donc, c'est une leçon de bonheur, c'est pas une leçon de morale.
Ah oui, je ne suis pas un être très moral, je crois.
Vous écoutez France Inter, vous écoutez L'Heure Bleue, vous écoutez le choix musical de Père Philippe de Mestère pour notre plus grand bonheur, y dire.
est 19h passé quand ils embarquent sur le bateau pneumatique. Mohamed Ibrahim Zada dit être accompagné de 32 autres candidats à l'exil. Rapidement, l'embarcation se dégonfle et se remplit d'eau. Alors ils s'activent. Certains écopent, d'autres essaient de remettre de l'air en vain. Le jeune homme de 21 ans dit qu'ils ont pu téléphoner à la police française. Ils ont même indiqué leur position. On leur répond qu'ils sont désormais dans les eaux britanniques, impossible d'intervenir. Ils appellent alors les autorités de l'autre côté de la Manche, qui renvoient vers la France.
Les gens ont perdu espoir et ont abandonné. Nous avons commencé à sombrer progressivement. Les vagues nous repoussaient vers la France et le bateau a coulé. Tout le monde est tombé dans l'eau. Nous nous sommes tous pris par la main pour ne pas se noyer. Au petit matin, quand le soleil s'est levé, les gens n'en pouvaient plus et ils ont abandonné. Ils ont renoncé à la vie.
En hypothermie, lorsqu'il a été sauvé, Mohamed Ibrahim Zada a été soigné en France. Il explique aujourd'hui qu'il voulait travailler en Angleterre pour payer les soins médicaux de sa sœur.
Ce drame que nous avons ressenti au plus profond de nous-mêmes se passait donc le 30 novembre 2021. Je pense qu'il a ébranlé l'opinion publique en France. Mais hélas, tout cela est retombé parce que ce que vous vivez depuis pas mal d'années, Père Philippe de Mestère, c'est le quotidien de ces personnes exilées.
Je ne sais pas si c'est retombé. C'est à nous de continuer à ne pas lâcher le morceau. Et pour ne rien vous cacher, pour moi, c'est une question qui appelle à des formes de résistance, de combativité, etc. Donc, cérébralement, pour ne pas dire intellectuellement, je suis très attentif à ça. Il s'agit bien de marquer qu'il y a des choses inadmissibles et on ne peut pas se contenter simplement de protester, de dire notre indignation, de continuer à faire ce que nous faisons déjà depuis des années à Calais, d'essayer de mettre des rustines sur tout ce qui est maltraitance municipale ou de l'État sur Calais. Il s'agit bien d'imaginer d'autres actions. Bon.
Vous êtes arrivé à Calais 6 mois avant le démantèlement de ce qu'on a appelé de cet horrible nom, la grande jungle. Qu'avez-vous constaté à cette période-là et est-ce que la situation n'a fait qu'empirer, c'est-à-dire que les autorités publiques ont fait semblant que les personnes exilées n'allaient plus vivre dans cet endroit, alors que ces personnes-là ont continué à y vivre, non seulement dans ce qu'on a appelé l'ancienne jungle, mais dans tous les environs.
Donc, oui, au départ, il y a eu un moment où il ne restait plus que des mineurs, là, qui avaient été déçus dans leur désir de passer de l'autre côté. Ils avaient cru qu'il y avait quelque chose d'assez automatique qui leur permettrait d'aller rejoindre leur famille, etc. Bon, de ce côté-là. Donc, ce sont eux qui sont restés d'abord sur le rivage. Et puis, petit à petit, les adultes sont revenus. Mais ce qui est sûr, c'est que aujourd'hui, c'est difficile de dépasser les enjeux immédiats électoraux. Donc, comme la question climatique, cette question d'immigration, c'est une question qui va concerner les générations à venir, et on pourrait attendre de personnes qui se disent des personnes politiques, soucieuses de politique, qui présentent un peu une vision de cet avenir, hein, parce qu'on ne pourra pas se contenter simplement d'opérations de police, etc., pour régler cette question. Il y a quelque chose de profondément attristant. En même temps, il y a des avancées. Donc, il y avait une réunion juste avant le week-end, je ne sais plus si c'était jeudi ou vendredi dernier, en sous-préfecture, où les associations ont pu introduire 3 personnes exilées. C'est la première fois où non seulement on les considère comme des êtres humains, mais aussi comme des êtres dotés de parole. C'est encore quelque chose de très petit, mais pour moi, ça m'apparaît important.
Ça, c'est un de vos grands credos dans le combat que vous menez en ce moment, y compris avec cette grève de la faim. C'est non seulement d'attirer l'opinion publique sur le sort de ces personnes exilées, mais aussi c'est de faire en sorte que vous reteniez l'attention des pouvoirs publics pour dire qu'il faudrait qu'elles se livrent à un travail politique et anthropologique et qu'elle demande l'avis à ces personnes exilées pour savoir comment procéder au lieu de systématiquement les ignorer en tant que personnes.
Oui, oui, les réduire à l'état d'animaux. Bon, voilà, même c'était l'évêque du Pas-de-Calais là qui était venu au moment où on avait fermé un abri de nuit là sur décision municipale où on hébergeait des mineurs non accompagnés puis des personnes sortant d'hôpital. Bon, voilà, donc notre évêque avait dit qu'on traitait à Calais les réfugiés comme on ne traite plus des animaux, des chiens. Bon, voilà, il y a bien ça. Actuellement, voilà, je veux dire, avec une personne ou l'autre, de temps en temps, là, durant ce mois-ci, nous allons nous-mêmes dormir donc sous tente, voilà, dans un des lieux de vie des personnes exilées. Bon, c'est quand même la boue, c'est vrai, voilà, c'est sous la pluie, c'est voilà, il y a quand même quelque chose qui est un refus d'assumer une réalité. Et pour moi, c'est pas simplement à propos des exilés. Vivant en Haute-Marne, une fois, j'étais revenu à Paris et j'avais vu des familles roms à la gare de Lyon, là, au pied des escaliers, avec des enfants. Mais j'avais été vraiment proprement scandalisé. Donc ça ressortait au fait que, déjà, à l'époque, on craignait de faire un appel d'air vis-à-vis de ces populations. Et alors, je me dis, mais qu'est-ce qu'un homme politique si finalement la seule solution qu'il a, c'est de mettre de pratiquer la politique de l'autruche. Bon, il y a bien des appels d'air, je veux dire les îles Caïmans pour les capitaux, ça joue le rôle d'appel d'air, le Black Thursday là, bon voilà aussi. Mais cet appel d'air là, je veux dire, on dirait qu'on a affaire à quelque chose d'incompréhensible, voilà, que notre intelligence ne parvient pas à assimiler, c'est bizarre.
Ouais, manifestement, vous avez pas été faire les soldes le Black Thursday parce que c'était le Black Friday, vous se seriez trompé de jour, Père Philippe.
Bon, c'est pas grave.
Oui, non, c'est pas votre genre, hein.
Non.
D'aller faire les soldes.
Non.
Mais je vous propose d'écouter un reportage encore qui va nous restituer le temps d'avant à Calais, là où vous vivez. C'était le moment de la décision du démantèlement systématique des camps. Rien que ce mot-là aussi, il est lourd de signification. C'est un papier de Nicolas Jogst sur Arte, et c'était le 30 mars 2021.
Tous les deux jours, c'est le même scénario. Un convoi de police quitte le commissariat de Calais pour rejoindre les campements où vivent plusieurs centaines de migrants. L'objectif, démanteler tous les camps et saisir les tentes où les migrants s'installent pour la nuit dans des champs ou des terrains vagues. Sandra Comel fait partie de l'ONG Human Rights Observers. Sa mission est d'observer les agissements des forces de l'ordre et de proposer une aide juridique aux migrants qui le souhaitent. Ce travail lui vaut d'être régulièrement contrôlé par la police.
On est là pour observer, documenter et dénoncer ce qui se passe pendant ces expulsions. On documente le nombre de tentes qui sont saisies. On est là pour vérifier qu'il n'y a pas de violence au moment des expulsions.
Peu de migrants acceptent de témoigner, mais ce jeune homme, lui, décide de nous confier son sentiment sur ces expulsions à répétition.
Le problème, c'est que les policiers, toujours, tous les trois jours, ils vont venir pour sortir la tente. On voulait rester ici. Parce que pourquoi on sort tous les trois jours? C'est difficile.
Pour éviter la saisie de leur tente, certains migrants s'auto-expulsent en quittant les terrains qu'ils occupent avant l'arrivée des forces de l'ordre. Ils s'y réinstallent dès leur départ. Lors de ces opérations, la police établit des périmètres de sécurité extrêmement larges pour éloigner les membres d'associations ou les journalistes de passage. Ce jour-là, de nombreuses tentes de migrants sont arrachées.
Le périmètre est clairement constitué pour nous empêcher d'observer, pour nous empêcher d'être présents justement sur les lieux de vie qui sont expulsés. La volonté, c'est de ne pas avoir de témoins de ce qui se passe.
Les tentes saisies sont jetées en vrac dans des camions puis stockées dans une ressourcerie en lisière de la ville. Officiellement, les migrants peuvent s'y rendre. Dans les faits, bien peu y parviennent pour retrouver leurs affaires. À la sous-préfecture de Calais, on justifie ces expulsions pour des motifs de tranquillité publique.
Nous venons d'entendre ce reportage donc daté du 30 mars 2021. Nous sommes à la fin de l'année 2021. La situation ne fait que s'empirer. Les personnes exilées avaient trouvé des moyens de vivre et pas seulement de survivre à l'intérieur de ce périmètre de Calais. Aujourd'hui, Père Philippe, vous êtes dans votre maison à Calais qui sert de lieu d'accueil et vous vivez avec des personnes exilées, vous aidez d'autres personnes exilées. Qu'en est-il de la situation? Y a-t-il encore une sorte de violence sourde et pas nommée par des mots avec, J'ai vu dans un entretien que vous aviez donné au journal Libération que vous constatiez quasi quotidiennement des faits de policiers qui venaient éteindre des feux qui permettaient à des personnes exilées de se réchauffer. Sans raison, pourquoi font-ils cela? Il semblerait qu'il y ait aussi des exactions de la part des personnels, certains personnels, de déchirer des tentes de personnes exilées. Pourquoi, comment et comment faire pour que ce genre de violence ne se perpétue pas?
Donc à propos là des feux éteints, c'était un jour précis. Hein. Je ne veux pas dire que c'est quelque chose de régulier. Et puis tout est affaire de personnes. Les compagnies de CRS se succèdent à Calais. Bon, je veux dire d'une compagnie à une autre, on n'a pas les mêmes comportements. Les personnes exilées font bien la différence.
Bah oui, mais il y a un seul ministère de l'Intérieur et un seul ministre de l'Intérieur qui devrait donner normalement des consignes suivies par tout le monde.
Mais les personnes exilées font aussi la différence entre les gendarmes et les CRS. Donc voilà, sans qu'on essaie de leur souffler l'affaire. Donc alors d'un côté, est-ce qu'il y a, ce sont des militaires, les gendarmes, est-ce qu'il y a une éthique, pour réemployer ce mot-là, qui est différente. Mais c'est difficile. Quand on voit des fourgons de CRS là qui stationnent des heures durant, hein, voilà, pour faire la surveillance, etc. C'est difficile quand l'un des CRS se présente dans une équipe, voilà, bon, nourrirait des réserves quant à ce qu'on leur fait faire, etc. Pris dans une ambiance
Mais ce ne sont pas eux les responsables.
Non. Alors, j'ai fait une lettre ouverte aux forces de l'ordre, là, mais qui n'a pas eu beaucoup d'audience. Où, pour moi, je faisais référence aux personnes qui sont passées en Algérie, du contingent, quand il y avait les événements à l'époque. Où on a vu revenir beaucoup de gens abîmés. Pourquoi? Parce que, pris dans un esprit de corps, ou par obéissance, ils ont fait des choses vraiment que toute leur humanité, leur interdisait de faire. Et ce sont des personnes qui sont revenues, qui étaient abîmés et qui souvent ont abîmé les relations qui pouvaient se tisser autour d'eux. Et je me dis, c'est impossible pour les policiers, avec ce que leur fait faire aujourd'hui, etc., qu'il n'y ait pas quelque chose de cet ordre-là. Alors je les invite à utiliser tous les instruments à leur pouvoir, le pouvoir de retrait, le droit de retrait, ou de se faire porter pâle, ou éventuellement d'inventer des moyens pour éviter de faire le travail qu'on leur demande de faire.
Dernière question, Père de Mester, vous avez décidé de donner votre vie aux personnes les plus faibles, en ce moment aux personnes exilées. Quel serait votre vœu pour 2022 ?
Tout à l'heure, j'évoquais là le fait que des personnes exilées aient pu rentrer dans un palais de la République, la sous-préfecture de Calais. Bon, voilà, de ne pas lâcher, de toujours y croire, et surtout de ne jamais croire que nous sommes réduits à l'impuissance. Il y a quelque chose personnellement, qui me révulse, c'est tout ce qui relève de l'impuissance, il n'y a plus rien à faire, etc. Non, pour ma part, et ça participe de la vie qui repousse là, dans des endroits inimaginables, bétonnés, etc. Je veux dire, il y a toujours quelque chose à faire. Donc ça suppose de garder de l'inventivité, de l'imagination, donc une part d'enfance. Bon, faut y croire. Donc voilà, la foi dans la vie, c'est ça. Et puis, il ne faut pas négliger là où on pense que tout se durcit devant nous. Il y a des personnes devant nous qui sont incapables de quitter l'habit de leur fonction. Ça, c'est dramatique. C'est-à-dire, même partageant un repas avec eux, il n'y a pas un moment où la personne puisse se lâcher pour dire ne serait-ce... Quand bien même ce serait hypocrite de dire, écoutez, oui, franchement, effectivement, on n'est pas à la hauteur, ou il y a quelque chose qui ne va pas, ou autre chose, bon voilà. Mais actuellement, on ne peut pas faire autrement pour ceci, pour cela, etc. Mais de plus en plus, on a devant nous des interlocuteurs qui sont tout d'une pièce. Ça, c'est grave, à mon avis. Parce que, je ne sais pas comment ils sont dans la vie quotidienne.
Ils devraient être comme vous. En tout cas, merci infiniment pour ce que vous êtes et ce que vous faites. Père Philippe de Mester.
Je peux rajouter un mot?
Oui.
Oui, vous disiez que je donne ma vie. Ça, c'est, j'éviterai ce genre de choses-là, vous savez. On ne sait pas ce qu'on donne. Bon, voilà. Enfin, je veux dire, je partage ma vie. Je veux dire, voilà, plutôt ça. C'est la couleur de vie. Ce n'est pas par sur moi ou autre chose. Bon. Merci. À vous.
J'entends le cœur du monde battre de plus en plus fort, celui des multitudes et de la solitude. Je croise de plus en plus la haine, la peur, la mort. C'est presque une attitude, ça devient l'habitude. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme, alors viendra le compte à rebours sur ses désirs brûlés, sur ses désirs brûlés. La tête du dictateur, la tête du fusilleur, toujours en embuscade dans les rues de Bagdad. Si la démocratie peut tomber en 10 heures, si les banques surnagent attendant le naufrage, alors nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme. Tu ne pourras plus faire demi-tour, enchaîner, 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 enchaîner. Après la guerre, on est dans l'entre-deux. On attend la prochaine, la dernière, la certaine. La guerre économique, au fond, c'est pas sérieux. Faudra bien que ça saigne des milliards, des centaines. Quand nos amours n'auront plus cours sous ce soleil énorme.
Et c'est avec le cœur du monde de Bernard Lavilliers que nous allons nous quitter. Merci infiniment, Père Philippe de Mestère. Vous allez faire la messe où et quand? La messe de Noël?
Donc ce sera dans le lieu de vie, là, où nous avons demandé l'hospitalité pour nous y rendre et dormir, là, dès que nous pouvons, durant le mois de décembre. Et il y aurait notre évêque, donc le Père Olivier Le Borgne, qui viendrait célébrer le 24 décembre soir à 20h30. Voilà, sur un lieu de vie.
Merci beaucoup, merci. Merci à Jean-Baptiste Audibert pour ses conseils musicaux. Merci à Élodie Royer, Céline Villegas, Iris Vertanessian. Merci à Vincent Deyer, qui est à la régie technique ce soir. Et merci à Lilian Allôme, qui, comme chaque soir, même la veille des vacances, a réalisé cette émission. Nous vous souhaitons à toutes et à tous un très joyeux Noël. Mais après le prochain journal d'information, vous avez bien sûr rendez-vous avec Mishka Assayas pour son Very Good Trip.